Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On peut diviser, je crois, l'humanité en deux catégories. Alors, à chaque fois qu'on dit qu'on peut diviser l'humanité en deux catégories, ça teinte à nos oreilles parce que ce genre d'affirmation est toujours un peu dangereuse. Elle dénote souvent une compréhension réductrice, une compréhension binaire, donc toujours traîtresse de la réalité. Il y aurait, selon certains, d'un côté les bons, d'un autre les mauvais, d'une part les Übermenschen, de l'autre les Untermenschen. Voilà, et on en vient à toutes sortes de dérives éradicatrices que l'on sait. Alors Dieu me préserve de ce genre de conception binaire de la réalité. Cela dit, je l'affirme, je le répète, on peut diviser l'humanité en deux. Alors je ne parle pas de cette division homme-femme, celle-ci elle saute aux yeux. Je parle d'une autre division. Il y a d'une part ceux qui se contentent de courir après les honneurs, après toutes sortes de plaisirs, après l'argent. Je les appellerai les rasmottes, sans préjuger de leur responsabilité, parce que bien souvent, s'ils sont tels, c'est parce qu'on ne les a jamais encouragés à lever les yeux. On ne leur a jamais montré qu'il existait d'autres réalités plus hautes et plus fondamentales. De tels hommes ne prennent pas trop le temps de réfléchir, ils sont emportés dans la vague, ils sont emportés un peu comme des animaux, totalement tributaires de ceux qui les entourent, de toutes sortes de stimuli, de toutes sortes de courants. Ils sont victimes de la mode, ils sont victimes de courses effrénées vers tous ces biens-là qui ne sont que relatifs. Ils vivent au gré de leurs instincts. Bref, ils se laissent porter par le courant. Ça, c'est la première catégorie des hommes. Et puis, il y a une deuxième catégorie des êtres humains. Ce sont ceux qui ont compris que la vie humaine ne pouvait se résumer à de telles quêtes. Que l'essentiel était ailleurs, que, en un mot, pour être vraiment humain, il fallait relativiser toutes ces choses, qu'il fallait s'arracher à tous ces attraits. Je ne fais pas de cette deuxième catégorie des êtres humains de purs esprits ou des saints déjà accomplis. Ils savent bien, ces êtres-là, qui n'ont pas tout misé dans les biens relatifs, ils savent bien combien il en coûte de s'arracher, et ils savent, parce qu'ils tombent souvent dans ces panneaux, ils savent bien que les biens de ce monde ont un réel pouvoir de séduction sur l'être humain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent qu'il existe d'autres biens plus hauts, et qu'ils essayent, bon an, mal an, d'y ordonner leur vie. Ces hommes-là, je les appellerai les hommes de bonne volonté. Je n'invente rien, je reprends les termes de l'Évangile. Et c'est à ces derniers, les hommes de bonne volonté et pas les rasmottes, que saint Paul s'adresse dans l'épître d'aujourd'hui. C'est leur préoccupation à ces hommes de bonne volonté que saint Paul essaye de rejoindre lorsqu'il entend leur donner la recette pour, selon ses propres mots, laisser grandir en eux l'homme intérieur. Voilà de quoi je voudrais vous parler aujourd'hui. Laisser grandir en nous l'homme intérieur. Alors là, mes frères, il y a toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de récifs à éviter lorsqu'on parle de cultiver l'homme intérieur. Il y a deux mirages principaux. Le premier mirage, la fausse conception de cette culture de l'homme intérieur, elle concerne plutôt les païens auxquels s'adresse saint Paul, les gentils qu'il a tant à cœur d'évangéliser, ou les néophytes qui sont issus du paganisme. Ces païens pensent spontanément qu'ils peuvent faire grandir l'homme intérieur. Comment ? En rentrant en soi-même. C'est-à-dire, un peu à la façon des philosophes de l'Antiquité, philosophes païens, qu'ils ont à entrer dans une sorte de soliloque. Qu'est-ce que ça veut dire soliloque ? C'est un colloque solitaire. Voyez, ils ont à se rendre indifférents à ces biens du monde, qui ne sont que relatifs, un peu à la façon des stoïciens, l'ataraxie, l'indifférence, la sainte indifférence, j'allais dire, mais elle n'est pas sainte, elle est totalement païenne. Le problème de cette démarche, c'est qu'elle n'est pas exempte du postulat qu'au fond, le mal, l'enfer, c'est les autres. Je vais rentrer en moi, et là je découvrirai la vérité. Et enfin, je pourrai m'épanouir vraiment en tant qu'être humain. Je m'isole, et là, j'ai mon jardin intérieur à cultiver, et je deviens quelqu'un de bien. Voyez, le fameux « connais-toi toi-même » de l'Antiquité païenne, très noble en apparence, risque fort de virer au « ne connais que toi ». Ça, c'est le grand problème. Vous voyez, cette fameuse quête de soi-même, dont le monde actuel nous rebat les oreilles, païen qu'il est redevenu, hein, on nous dit tout le temps, prenez enfin du temps pour vous, voilà, soyez zen, entrez en vous-même, voilà, revenez aux sources, psychologie, des profondeurs, etc. Voilà. Il est trop évident que cette démarche-là débouche en réalité sur l'égoïsme et sur une sorte de contemplation de son propre ego. Voyez, et une contemplation, même pas de ce que nous sommes réellement, ce qui serait déjà assez déplacé, se mirer toute la journée tel Narcisse, c'est pas terrible, mais ce n'est même pas contempler soi tel qu'on est réellement, à quoi conduit ce soliloque, c'est contempler l'image qu'on se fait de soi. Voyez, on verse dans le pur subjectivisme et on adore une sorte d'idée, une sorte de statut de soi-même. Voyez à quoi conduit cette première fausse méthode pour faire grandir l'homme intérieur. La deuxième fausse méthode pour faire grandir en nous l'homme intérieur, elle est plutôt le fait des Juifs, ou le fait de ces baptisés de fraîche date qui viennent de la synagogue, auxquels saint Paul s'adresse également dans cette épître. Au fil des siècles, les Juifs ont cru qu'ils pourraient devenir parfaits, être tenus pour justes aux yeux de Dieu, être des saints, en se contentant d'appliquer scrupuleusement la loi. Leur raisonnement, c'est « puisque la loi vient de Dieu, si je suis dans ses moindres détails la loi, alors je deviendrai un saint ». Voyez, laisser croître l'homme intérieur, pour un juif, c'est laisser la loi prendre possession de son être, régler la moindre de ses pulsions cardiaques. Le problème là est différent de celui des païens, c'est que, le résultat est en fait le même, la source n'en est pas la même, mais le résultat est le même, dans une telle perspective, là encore, on arrive à une auto-admiration de soi-même. Je suis un type bien, c'est le pharisien de la parabole, le pharisien au temple, qui est un type bien parce qu'il applique la loi. C'est même pire encore que la solution païenne du retour sur soi psychologisant. C'est pire parce que cette démarche du pharisien incite non seulement à l'égoïsme et à l'auto-admiration, mais en plus au mépris de celui qui est à côté de moi et que je considère comme ayant échoué. Pourquoi ? Parce qu'il n'applique pas au pied de la lettre la loi. Alors ces deux méthodes, mes frères, pour parvenir à l'épanouissement de l'homme intérieur, nous le devinons, elles mènent à l'impasse. Et nous devons bien convenir que nous autres chrétiens, qui ne sommes plus païens, qui ne l'avons jamais été que les quelques jours qui précédaient notre baptême, lorsque nous étions tout petits, nous donc qui ne sommes pas païens, nous qui ne sommes pas non plus juifs, nous avons quand même la tendance à tomber dans ces deux ornières. Facilement, nous croyons que pour devenir un saint, il faut d'abord s'isoler. Voyez, il faut vaquer à un perpétuel examen de conscience, à une introspection permanente, à la façon du soliloque des païens. Voyez, évangélisation des profondeurs. Il y a des choses très belles là-dedans, mais il y a des choses totalement égoïstes. Il y a dans cette démarche quelque chose de nombriliste. Voyez, et de totalement indifférent aux autres. Je deviendrai un saint en un mot, en ne m'occupant que de mon nombril. La deuxième tendance dans laquelle nous tombons, nous chrétiens, c'est que nous considérons un peu facilement que, à force d'exécuter point par point toutes sortes d'exercices, quelle horreur, exercices spirituels, comme si on faisait de la musculation de l'âme, eh bien, après la récitation de deux chapelets, d'un chemin de croix, d'un ou deux chapitres de la Bible, une confession tous les deux mois et la messe tous les dimanches, eh bien, nous arriverions, un peu comme les pharisiens, à la sainteté, à laisser épanouir l'homme intérieur en nous. Dans son épître, saint Paul tue ses deux idoles. Saint Paul veut provoquer un sursaut chez ses auditeurs juifs et païens. Il veut leur montrer qu'il ne faut pas se méprendre. Quand Jésus dit « Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret », il ne nous invite pas à une introspection des profondeurs perpétuelles et à un examen permanent de notre propre petite personne. Lorsque le Seigneur Jésus nous dit qu'on ne parvient au salut qu'en appliquant les commandements, il dénonce en même temps la posture pharisaïque qui consiste à croire qu'en appliquant quelques petites règles rituelles, nous arriverions au ciel. En un mot, ce que saint Paul semble crier à la face de ses auditeurs, juifs et païens, c'est arrêtez de croire que vous avez en vous de quoi devenir l'homme intérieur et de quoi parvenir au salut. Vous voyez, c'est ce à quoi appelle saint Paul, c'est à faire la vérité. Nous n'avons par nature aucune idée de notre véritable finalité. Nous n'avons aucune idée de l'homme intérieur tel que l'entend Dieu. Parce qu'elle dépasse cette conception des choses, parce que ce que Dieu veut pour nous, l'homme intérieur, est au-delà des forces de notre nature. Elle est surnaturelle. Nous avons un peu la tendance, et aujourd'hui cette tendance est accusée dans l'Église, dans tous les sermons qu'on nous chante tous les dimanches, à croire qu'il y a au fond de l'homme de quoi rencontrer Dieu, de quoi devenir un saint. C'est faux. La nature humaine est incapable, encore une fois, de savoir qu'elle est faite pour la béatitude et de savoir comment parvenir à cette béatitude. Ce que veut provoquer saint Paul, c'est une conversion chez ses auditeurs. C'est-à-dire les persuader qu'ils doivent recevoir la révélation de Dieu. La foi en Jésus-Christ, il parle de la foi. La foi en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire je reçois une lumière qui m'indique des réalités surnaturelles dont ma nature n'a pas connaissance par son essence même, c'est-à-dire il y a un Dieu trinitaire qui m'appelle à la béatitude et qui veut me donner les moyens d'y arriver. Vous voyez, c'est ça la foi premièrement, c'est une lumière qui me montre le sommet de la montagne. Ce sommet, je ne peux pas le connaître par ma simple nature. Et cette même lumière me montre, par contraste, mes propres incapacités, mes propres misères, mon péché. Voilà ce qu'il faut pour réaliser l'homme intérieur en nous, ni entrer en soi-même, s'emprisonner dans une introspection perpétuelle, avec notre petite nature livrée à elle-même, ni non plus appliquer bêtement des commandements qui nous sont imposés de l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est se laisser saisir par la foi en Jésus-Christ. C'est laisser la lumière se faire sur nous, de sorte qu'on connaisse vraiment notre finalité, la béatitude, et les moyens d'y parvenir, et en même temps qu'on sonde en permanence notre incapacité foncière à parvenir à cette béatitude sans l'aide du Christ. Vous voyez que ce à quoi appelle saint Paul, c'est une véritable conversion. Mes frères, vous me direz, j'en suis exempt. Alors, s'il y a bien un moment où vous pouvez vous introspecter, c'est ce soir dans votre prière, par exemple, qui sera fervente, j'en suis sûr, en repensant à ce que je viens de vous dire. Là, introspectez-vous et demandez-vous si vous ne tombez pas dans l'un ou l'autre de ces pièges. N'êtes-vous pas un peu pélagien? Ne croyez-vous pas que dans votre nature, par votre nature, avec vos petites forces, par une introspection ou par l'application des commandements, vous arriverez au ciel? Demandez-vous si vous laissez cette lumière de la foi entrer en vous jusque dans les moindres fibres de votre existence. Si vous permettez à Dieu de vous montrer le chemin et comment y parvenir, et si vous reconnaissez humblement que seul vous êtes incapable de parvenir à cette béatitude. Mes frères, vous voyez que ces réalités sont toutes simples. C'est l'idée centrale de saint Paul dans cette épître. L'épître aux Éphésiens, sur laquelle je me suis un peu concentré aujourd'hui, l'épître aux Éphésiens appartient à ce qu'on appelle les lettres de la captivité de saint Paul. Ce sont les dernières lettres que saint Paul ait écrites. Ce sont des sortes de lettres encycliques qu'il envoie en fait non pas à la communauté d'Éphèse seule, mais à toutes les communautés filles qu'il a créées. Et il leur laisse une sorte de testament spirituel. Vous voyez que ce que je viens de vous dire et ce que vous pourrez lire dans l'épître de saint Paul est crucial. C'est la fine pointe, c'est le cœur de la théologie de saint Paul. Et si nous voulons avoir une prédication ou un témoignage, une évangélisation efficace autour de nous, il faut prêcher cela. Il ne faut pas essayer de rejoindre notre prochain là où il en est. Tu sais, il y a au fond de toi une aspiration à la béatitude. Rien du tout. Sa nature est incapable d'entrevoir cela. Il faut lui prêcher Jésus-Christ. Il faut lui dire les choses en face, en lui parlant de la béatitude, en lui disant qu'il est incapable d'y parvenir et qu'il est pécheur, et en disant que vous êtes dans la même situation. Voilà, sans lui dire que vous en êtes un peu, que peut-être vous êtes un peu plus haut parce que vous avez l'habitude de recevoir la grâce. voyez que c'est la seule condition à laquelle nous parviendrons un jour au ciel. Si nous laissons la foi illuminer notre existence, nous montrer notre péché et nous montrer la fin, les véritables fins dernières. Je demande à Notre-Dame, qui évidemment a toujours été parfaitement transparente à la foi, elle était cristalline, la Sainte Vierge, et qui s'est totalement laissée éclairer par la foi, de péché elle n'en avait pas alors. Évidemment, mais elle était dans une humilité qui ne requérait même pas qu'elle batte sa coulpe. Voyez, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous laisse accueillir vraiment cette lumière de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.